Je vais vous dire, je vais pas parler d'Ibiza. Je veux parler de ceux qu'on n'entend pas et qui devraient faire l'actualité, les enseignants notamment, qu'on parvient contre toute attente à passer sous silence, ce qui me fait m'interroger sur nos priorités, sur celles et ceux qu'on choisit d'oublier. Ce que je vois, moi, c'est une interdiction de manifester à Paris aujourd'hui, c'est-à-dire d'investir l'espace public, d'avoir voix au chapitre, de dire haut et fort des expériences et des revendications qui ne sont pas entendues, alors même que la télé, les journaux, les réseaux mettent en une les congés d'un ministre. À l'absentéisme, dont tout le monde parle, du côté d'un membre d'un gouvernement ou des enseignants selon le camp, moi je préfère parler de présence, d'une présence déplacée sur un plateau de 20 heures ou en première page de nos journaux d'un côté, et d'une présence historique, la semaine passée, sur le pavé, pour pouvoir travailler dans des conditions acceptables, alors que les protocoles sanitaires sont sans cesse révisés, que les moyens, y compris en masque, ne leur sont pas accordés et qu'ils sont constamment fragilisés dans leur mission et dans leur santé. Cette présence des enseignants en classe et dans la rue pour pouvoir continuer d'exercer leur métier, c'est ça qu'il faut pas oublier.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui n'a rien oublié ce matin, ni sa casquette, ni sa guitare, ni ses mots, pour celles et ceux qu'on n'entend pas. Justement, héritier d'une chanson réaliste, épurée, il s'est fait connaître il y a 4 ans et il enchaîne depuis les albums et les concerts. En août dernier, il faisait paraître son 3e disque, Ta place dans ce monde, et poursuit actuellement sa tournée dans toute la France. Bonjour Gauvin Serres.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avant toute chose, pour vous, qui ne faut-il pas oublier, justement?
Je crois qu'il faut oublier personne, justement. Je crois qu'on est, on parlait tout à l'heure de liberté, égalité, fraternité. Je crois que tout le monde a un petit peu sa place aujourd'hui. Et c'est ça que je voulais interroger justement dans cet album-là. C'est la place de chacun. On est tous très différents. On vient tous d'horizons très différents, mais on a tous un rôle à jouer dans la société. Je crois que c'est ça qui forme une société. C'est les êtres humains, quoi.
Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce titre phare que vous mentionnez, Les Oubliés, paru il y a 3 ans, vous parliez d'un institut dont l'école allait fermer. La colère, le combat des enseignants qui étaient en grève jeudi dernier, c'est quelque chose qui vous touche particulièrement, cette colère, comment vous l'expliquez ?
Certainement parce que j'ai grandi aussi dans un terreau familial qui a mis l'école très en avant. Mon père était professeur et j'entendais beaucoup ces discussions-là quand j'étais petit. Et c'est vrai que l'école a tout de suite fait partie de ma vie dès l'enfance. Et en même temps, aujourd'hui, je me rends compte que c'est quand même un des grands piliers de l'existence. Tout ce qui se passe à l'école... je ne sais plus quel poète disait qu'on ne guérit jamais de son enfance, mais c'est un peu ça, c'est ce qui va ensuite nous lancer dans la vraie vie. C'est là où on apprend toutes les choses, c'est là où on apprend aussi à communiquer avec les autres, à vivre ensemble. J'ai tout de suite été touché par la lettre de Jean-Luc Massalon et puis il parlait surtout de son métier avec tellement de passion. Je crois que c'est ça qui m'a touché. J'ai eu envie de parler de lui. Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de chansons sur les instituteurs, il n'y a pas beaucoup de chansons sur les gens de l'ombre en général.
Dans votre album Ta place dans ce monde, vous parlez aussi d'une France des gens qui passent. À quoi elle ressemble justement cette France des gens qui passent, Gauvin Serres ?
C'est vrai que celle-ci, c'est vraiment une chanson de café parisien où je regarde un petit peu, où je fais un peu mon métier d'auteur de chansons, où je regarde la vie des gens et justement où on voit la pluralité de ces existences qui sont devant nous. Il y a tellement de poésie et en même temps tellement d'inégalités aussi, notamment à Paris. Forcément, on se prend ça un peu en pleine figure.
Oui, ce sont des existences, à vous entendre, qui n'occupent pas le devant de la scène, qui restent en retrait.
Oui, il y a quand même plus de gens qui sont pas sous le feu des projecteurs que de gens qui le sont.
Alors ça, c'est passionnant. La lumière, celle qui vous entoure, de fait, celle qui est braquée sur vous, comment est-ce que vous la vivez par conséquent ?
Je crois que j'étais pas tellement prédestiné à ça c'est sûr. Je viens pas du tout d'une famille d'artistes ou de gens qui s'exposent entre guillemets. Mais j'ai appris à vivre avec. Je crois que ça fait partie du métier. Ça peut être un inconvénient de temps en temps, mais
ça peut être une culpabilité à vous entendre.
Ça peut être une culpabilité parce qu'on se doit, je trouve, on a une espèce de responsabilité aussi quand on essaye de faire passer des messages, de porter des valeurs dans les chansons. C'est vrai qu'après, dans la vraie vie, on se pose toujours des questions. Est-ce qu'on est droit dans ses bottes avec ce qu'on raconte dans les chansons? C'est ce genre de choses-là qui peuvent me questionner parfois.
Vous savez, Gauvin Serres, là, je pense dans votre dernier album, à cette chanson « Les gens de l'ombre » ou encore en première ligne, à ceux qu'on voit pas, ceux qu'on n'applaudit pas. Justement, qu'est-ce que vous ressentez quand on vous applaudit? Vous.
Ça me touche évidemment pendant les concerts. C'est euh, C'est un rituel, mais c'est vrai que c'est toujours très émouvant de voir qu'on peut toucher les gens avec des mots, avec des notes, et de sentir que les gens en veulent encore. Je crois que c'est une espèce de communion qui fait du bien, encore plus en ce moment où on a l'impression que les fractures et les divisions s'accumulent, et de pouvoir vivre des moments où on est dans le partage et où il y a de l'émotion. Surtout, je crois qu'on oublie vachement ce côté émotionnel des choses qui est pourtant un propre de l'être humain. On est les seuls à rire, à pleurer. C'est ce qui nous différencie aussi des animaux, etc.
Mais c'est vrai ce que vous dites. Ce sont des émotions, ce sont des chansons qui sont partagées. Et ce qui est intéressant, c'est que certains de vos titres, comme Les Oubliés notamment, ont anticipé, d'une certaine façon, le mouvement des Gilets jaunes, des Invisibles. C'est devenu d'ailleurs un hymne. Et ça pose une question que moi je trouve passionnante. À qui appartient une chanson, au fond?
C'est une bonne question. C'est vrai que... on a l'impression qu'elle nous appartient au début, quand on est tout seul dans sa petite fiole à essayer de trouver les bons mots. Et c'est un exercice très solitaire que j'adore. D'ailleurs, je pense que c'est l'exercice que je préfère. Celui où on a l'impression qu'on a trouvé le bon mot et qu'on cherchait depuis des heures et qui tombe pile poil avec la bonne note. C'est vrai que c'est un sentiment que je connais nulle part ailleurs dans la vie. Mais après, c'est vrai qu'une fois qu'on la libère et qu'on... Moi, ce qui me terrorise, c'est de la graver sur un album, c'est de la figer pour l'éternité, et de se dire que les gens vont toujours entendre cette version-là et connaîtront cette version-là. Et si je change un tout petit mot ou même une intonation, les gens se sentiront trahis. Donc, je crois qu'après, ça appartient vraiment à ceux qui les écoutent et qui
les
font vivre.
Pour qu'elles vivent, il faut qu'elles soient sans cesse renouvelées, chantées, retravaillées.
C'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai qu'elles ont parfois des deuxièmes vies quand les gens sont réinterprétés par d'autres artistes. Et ça, c'est vrai que c'est très émouvant quand on entend sa chanson chantée par une autre voix. C'est assez fou. Ouais.
Alors, ça peut changer des vies, une chanson. Pour vous, en tout cas, ça a tout changé. Et ça a tout changé à partir de ça.
Pourvu qu'elle trouve pas ridicule la phrase marquée sur mon pull. Pourvu que je lise pas dans ses yeux que ma casquette, c'est pour les vieux. Pourvu qu'il n'y ait pas un énorme blanc dès que je prononce intermittent. Pourvu qu'elle prenne pas le premier train quand je vais lui dire je m'appelle Gauvin.
Et puis il y a celle-là dont on a déjà parlé.
Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis.
Puis à celle-ci.
Pour chasser ta mélancolie, y a des notes d'espoir dans ton lit, dans la voix du chanteur qui gronde. Toi tu cherches ta place dans ce monde, ta place dans ce monde.
Gauvin Serres, qu'est-ce qu'il a fallu pour que vous la trouviez, votre place dans ce monde?
Pas mal de doutes, pas mal de recherches. Forcément, on se pose plein de questions à l'adolescence. Et puis quand on rentre un petit peu dans la vie active, je crois qu'il a fallu surtout beaucoup d'insouciance. Parce que tous les choix que j'ai faits maintenant, quand je les regarde un petit peu dans le rétroviseur avec un peu plus de recul, je me dis que c'était totalement insouciant. Et en même temps, je suis très heureux de les avoir faits parce qu'il fallait les faire à ce moment-là. Mais quand j'ai foutu mon diplôme à la poubelle, voilà, j'avais quand même fait des études pendant 5 ans et je pars à Paris faire de la musique. C'était voilà, heureusement que j'étais très jeune à ce moment-là et puis je suis parti la tête dans le guidon sans regarder derrière, sans me poser de questions. Et en même temps, j'étais animé par une flamme intérieure une petite voix qui me disait il faut y aller quoi.
Mais les doutes, vous en parlez volontiers dans une chanson qui s'appelle Elle était là.
Oui.
Où vous parlez notamment du téléphone qui sonne pas, du public qui n'écoute pas, des fins de mois difficiles, de votre mère qui est la seule à vous reconnaître dans la rue. Quand est-ce que ça a basculé en fait? Qu'est-ce qu'il a fallu?
Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est vrai qu'il y a plein de petites marches à gravir, et heureusement d'ailleurs, parce que je crois que c'est terrible quand ça arrive, voilà, comme ça d'un coup, qu'on n'est pas préparé. Ça peut être très déstabilisant, je pense. Mais moi, j'ai eu la chance, j'ai eu un coup de fil, j'ai eu un coup de fil d'un
pas n'importe qui,
voilà, de quelqu'un qui a un petit peu changé le cours des choses pour moi, c'est clair. Donc on parle évidemment de Renaud et qui un jour est tombé sur la chanson Pourvu, justement un petit peu par hasard.
À l'époque, vous n'avez pas de label?
À l'époque, j'ai pas de label, pas d'éditeur, rien. J'ai juste mes managers que j'ai encore aujourd'hui. Et voilà, je commençais à jouer dans des petites salles, mais c'était voilà des endroits très intimistes où j'apprenais un petit peu à ce métier-là. Et voilà, un jour, je suis dans un resto asiatique et je reçois le coup de fil et c'est allô, c'est Renaud le chanteur. Et là, évidemment, je me liquéfie sur place et je pense à une blague au tout début et puis très vite, je reconnais sa voix. Enfin voilà, il est très difficile à imiter. Et voilà, il a parlé de ma chanson avec des mots extrêmement touchants et puis à la fin de la conversation, il me propose de faire ses premières parties. Et ça a été un peu le début de l'histoire.
Ouais. Mais c'est pas anodin comme coup de téléphone. Quel héritage, quelle tradition de la chanson est-ce que vous avez l'impression de perpétuer, Gauvin Cerce ?
Peut-être de raconter des histoires déjà. Je crois qu'on est plus très nombreux à le faire aujourd'hui. Enfin, quand je parle d'histoire, je parle de voilà où il y a vraiment un déroulé dans une chanson. Il y a un vrai début, une fin, parfois une chute qui vient twister tout le reste, un déroulé, une intrigue, et puis voilà des images, des personnages beaucoup aussi. J'aime beaucoup ça. Et puis peut-être c'est aussi un mélange de choses un petit peu plus sociales, un petit peu plus intimes. Voilà, c'est peut-être ça qui que j'ai eu envie de faire perdurer dans cette chanson. En tout cas, c'est celle qui m'a donné envie d'écrire. Donc, naturellement, j'ai...
Mais votre famille, elle vous prédisposait à aimer la musique, à faire de la musique, à en faire votre métier?
Oui, par contre, tout à l'heure, je disais que voilà, j'avais pas baigné dans une famille d'artistes. Mais par contre, on est tous très amoureux, je crois, de la musique, de la chanson. Et voilà, il y a une chanson dans mon premier album qui est très autobiographique là-dessus, qui s'appelle « Dans la bagnole de mon père ». Et c'est vraiment des souvenirs très, très, très forts pour moi, parce que je pense que sans ces moments-là, j'aurais pas choisi de faire ce métier. J'ai été piqué par ce virus de la chanson et des gens qui avaient des choses à dire aussi et qui interrogent à un âge où on n'en parle pas forcément avec ses frères, avec ses parents. Et les chanteurs peuvent avoir ce rôle-là d'éveiller au monde et d'éveiller les consciences.
Mais en même temps, pour aller dans des concerts, à l'époque, il fallait prendre la bagnole du père, justement. C'est-à-dire que la culture, ouais, elle n'était pas accessible tout de suite. Non plus.
Pas du tout, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que... Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça, maintenant, que je fais des concerts un peu partout. C'est, j'ai l'impression de devoir renvoyer l'ascenseur, en quelque sorte. Et j'ai eu la chance d'avoir un père qui était vraiment, vraiment mélomane et qui n'hésitait pas à nous emmener à 80 km de la baraque pour aller voir un concert. On arrivait 2 heures avant, on avait le petit sandwich, on avait les albums dans la voiture, on connaissait tout par cœur et j'attendais pour la dédicace à la fin du concert. Mon premier concert, c'était La Grande Sophie, d'ailleurs. Faudrait que je lui dise un jour parce que ça m'a beaucoup marqué. J'avais adoré et voilà, c'était son tout premier EP. Qui était orange et j'ai encore la dédicace à la maison.
Et pas que la musique, il paraît que sur le chemin de l'école, vous écoutiez ça.
Gilbert Romont, Jean-Louis Foulquier, c'est Pollen, salut.
C'est la voix du maître, Jean-Louis Foulquier, Pollen.
Ouais. Ça m'a mis des frissons, là.
Pourquoi, quels souvenirs, quelles émotions, est-ce que ça fait surgir tout de suite?
Bah, il y a une espèce de nostalgie, ouais, qui remonte tout de suite parce que, voilà, mon père enregistrait beaucoup les cassettes de cette émission-là et c'est vrai que Jean-Louis Foulquier, j'ai l'impression de l'avoir connu. Alors qu'évidemment, je l'ai jamais rencontré. Et voilà, il a une voix tellement, tellement forte, puissante, et puis humaine et entière aussi. Et puis, je crois que voilà, c'est lui qui nous a fait découvrir beaucoup d'artistes aussi.
Par exemple, vous avez découvert qui avec lui?
Bah, Alain Lepresse, par exemple. Voilà, je sais qu'il l'aimait beaucoup, et c'est un artiste qui m'a bouleversé quand j'ai découvert son écriture et la puissance des fulgurances dans les images et le fait de pouvoir dire énormément de choses. Avec des mots très simples et en très peu de mots aussi.
Oui, vous savez, c'est intéressant, Gauvin Cerce, parce que vous évoquiez tout à l'heure la question de l'accès à la culture. Comment vous concevez justement le rôle du service public, des médias publics, dans l'accès à la culture?
Bah, je crois qu'il y a un rôle de découvreur, je crois que c'est surtout ça. Et on a tous accès, quelque part, avec notre petite radio, et aujourd'hui avec Internet, quel que soit l'endroit où on se trouve, on peut avoir accès à cette musique-là. Donc je pense que c'est aussi aux programmateurs et aux radios de faire découvrir effectivement ce qui sort peut-être un peu des sentiers battus. Et je crois que Jean-Louis Foulquier le faisait très bien et parce qu'il était animé peut-être par les bonnes raisons. Et voilà, c'est peut-être ce qui manque aussi de temps en temps aujourd'hui.
Mais vous entendez quand même que depuis quelques années, on attaque les médias publics, on leur reproche de suivre une ligne politique. Certains candidats envisagent même de privatiser l'audiovisuel public. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous ?
Bah, c'est vrai que les privatisations, c'est un peu dans la continuité de tout ce qui se passe ces dernières années avec les aéroports, etc. Tous les services publics qui ferment, les écoles, c'est un petit peu une politique... qui m'attriste effectivement parce que ça fait partie du bien commun. C'est vrai que c'est quelque chose qui appartient quelque part à toute la société et je pense que c'est assez triste de le marchandiser quelque part. Tout n'est pas marchandise. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui on se rend compte dans les hôpitaux de devoir rendre rentable tout ça, les écoles aussi, etc. C'est vraiment une déshumanisation de notre pays qui m'hérisse le poil.
On va reparler ensemble d'humain, Gauvin Cerce, mais aussi de liberté, de musique, d'ouverture, juste après Sentiments étranges. Extrait de votre dernier album, Ta place dans ce monde, vous êtes sur France Inter avec Gauvin Cerce. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
T'as compris très tôt, depuis l'enfance, que tu portes le maillot de la différence. Même quand tu marches droit, on te montre du doigt. Jamais tu sortiras sans tes papiers sur toi. Tu sais ce que c'est qu'être un bouc émissaire, parce que ton père est né sur l'autre hémisphère. Toi tu ne les connais pas, les rues de Kinshasa. On te rabâche pourtant de retourner là-bas. Malgré tout ça, tu crois encore en l'être humain. Au verre à moitié plein. Malgré tout ça, tu as un sentiment étrange. Peut-être que le monde change. Dans la cour d'école, au ballon prisonnier, te choisissais toujours le dernier. Les histoires se répètent et tu ramasses les miettes. Jamais sur un CV t'as pu coller ta tête. Les remarques sournoises, les regards qui blessent, préjugés qui glacent, contrôle aux faciès. Chaque jour à la cafetière, le racisme ordinaire. Mais les petits ruisseaux font les grandes colères. Malgré tout ça, tu crois encore en l'être humain. Au verre à moitié plein. Malgré tout ça, tu as un sentiment étrange. Peut-être que le monde change. C'est vrai qu'on la trouvait plutôt jolie, mais qu'est-ce qui a changé depuis Lily? Y a encore du boulot pour que ta couleur de peau se mélange à la mienne comme sur un piano. Mais putain, ce serait beau que ta couleur de peau se mélange à la mienne comme sur un piano.
France Inter, Boomerang.
On est quelque part entre Gavroche, Gaspard Proust et le petit Pousset. Le regard caillou blanc, le sourire cascadeur et pétillant, la casquette gouailleuse et schnappant, avec ses chaussures fétiches ce matin, il me l'a confié. Le musicien Gauvin Cerce, invité de Boomerang, pour revenir aussi sur une approche de la musique quand même. Pour ce troisième album, Ta place dans ce monde, dont on vient d'entendre un extrait, vous avez travaillé un peu différemment que pour les précédents. Quels sons est-ce que vous aviez en tête ?
Bah, c'est vrai que j'avais envie de faire un petit pas de côté par rapport aux deux premiers et de changer mes habitudes aussi pour pas tourner en rond et
vous dites plus chercher... moderne parfois.
Bah, en tout cas, on a essayé de chercher des choses un petit peu plus épurées avec Renaud Létang, le magnifique réalisateur de cet album que je salue et j'aime beaucoup son travail et puis il va vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire que dès qu'il y a un instrument qui rentre, c'est jamais pour rien, il vient souligner quelque chose et il y a peut-être un petit peu plus de clavier aussi qu'un empilage de guitare qu'il pouvait y avoir avant. Donc voilà, c'était une manière de chambouler mes habitudes.
C'est intéressant pour vous, Gauvin Cerce, qu'est-ce qui fait qu'une chanson reste, qu'elle se démode pas ? Là, c'est autant à l'auditeur qu'au chanteur que je m'adresse.
Il y a une espèce de mélange de plein de choses. Je crois qu'il faut évidemment qu'il y ait une alchimie entre le texte et la musique. Déjà, je pense que c'est ce qui fait une grande chanson, c'est qu'on a l'impression que la musique a été composée tellement parfaitement et que tout paraît fluide, ça nous met des frissons, les mots ressortent au bon moment. Et puis je crois qu'il faut que le texte ne se démode pas, que ça puisse toucher les gens. Je crois que c'est qu'on puisse se reconnaître dans l'histoire. Et puis après, dans le son, je crois qu'il y a plein de chansons qui traversent les générations. Je sais pas, je pense à des chansons dans les années 60-70 qu'on réécoute aujourd'hui et on se dit, on est très heureux de les réécouter. Elles ne sont pas démodées.
Mais quand est-ce que vous avez commencé à écrire, vous?
J'ai commencé à écrire à la fin du lycée. En fait, j'étais plutôt un scientifique, ayant un père prof de maths, mais je me suis découvert une espèce de passion aussi pour l'écriture. En fait, pendant les cours de français, j'ai commencé à écrire des poèmes et puis après des écrits d'invention. Et c'est vrai que de jouer avec les mots, il y avait un côté très ludique. Et puis après, je me suis vraiment pris au jeu. Et puis un jour, mon prof de français, qui s'appelait Monsieur Ferraud, que j'ai jamais retrouvé depuis, que j'aimerais bien retrouver.
Là, il vous écoute.
Et un jour, il m'a écrit, quand je lui avais rendu un poème, il m'avait mis sur la marge « Est-ce que Gauvin rimera-t-il avec écrivain ?» Et ça a vraiment allumé une espèce de lumière en moi. Je me suis dit, mais en fait, c'est possible d'écrire des choses. Et le fait que lui, il légitime ça, je me suis permis après de faire des chansons. Et puis, j'en ai fait une qui était très mauvaise. Et puis, une deuxième. Et puis on finit par apprendre... Voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est ce que je dis toujours, mais quand on me demande comment j'en suis venu à faire ça, c'est que c'était une passion et puis après, beaucoup de travail.
Et qu'est-ce qu'il faut pour faire une bonne chanson, Gauvin Serres ? À quoi ça tient ?
Je parlais de l'équilibre quand même entre le texte et la musique, pour moi c'est très important. Après c'est toucher à l'universel, et moi je crois beaucoup aussi aux images, je travaille énormément sur ça, c'est que j'aime quand les chansons sont très visuelles, qu'on ait l'impression d'avoir un espèce de court-métrage qui défile dans notre tête, presque comme si on regardait le clip. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Après, chacun a sa manière un petit peu de travailler, mais...
Mais à vous entendre, là, j'ai l'impression qu'il faut du cœur.
Oui, je crois qu'il faut beaucoup d'empathie pour être auteur de chansons. Il faut essayer de sentir les gens. Il faut essayer de ressentir ce qu'eux ressentent et ce qu'ils n'arrivent pas forcément à faire ressortir. Ce qui est un petit peu mon cas aussi dans la vraie vie. Je suis pas le plus bavard ou la personne qui va le plus se dévoiler, se confier. Par contre, avec les mots, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, on a le droit de raturer, on a le droit de prendre son temps, on a le droit de se tromper. Et une fois qu'on délivre, le texte qu'on a envie de montrer, c'est celui qu'on a vraiment envie de montrer. Et ça, c'est un petit peu la force des mots de pouvoir se cacher derrière eux quelque part.
Alors c'est par une chanson que vous avez écrite spécialement pour cette émission et on vous en remercie. Une chanson que vous avez écrite avec le cœur que j'aimerais qu'on se quitte. C'est à vous.
Avec plaisir.
La guitare.
Oui, la guitare. Parce que c'est vrai que on parle beaucoup de pandémie en ce moment, mais c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres sujets à traiter en ce moment.
Monsieur le Président, je prends la plume aujourd'hui, comme l'ont fait Boris Vian et Renaud après lui. J'ai l'espoir qu'une lettre sera peut-être lue, quand le bruit sous vos fenêtres, vous ne l'entendez plus. Monsieur le Président, seriez-vous dur d'oreille, pour bafouer si longtemps un boucan sans pareil? C'est le peuple qui gronde, qui occupe vos boulevards, pendant que la bête immonde se rapproche du pouvoir. Monsieur le Président, je ne viens pas en guerre, déserteur également, mais surtout en colère. Quand fleurit l'injustice, les propos indécents, quand on voit la police cogner des innocents. Monsieur le Président, refusez-vous de voir ceux qui vous ont un temps choisi dans l'isoloir. C'est l'infirmière de garde qui ne compte plus ses pleurs chaque nuit quand elle regarde l'hôpital qui se meurt. Monsieur le Président, admirez les banderoles aux bras des enseignants qui se saignent à l'école. Qu'y a-t-il de plus beau qu'un gamin qui apprend, qui monte sur l'escabeau pour devenir plus grand, monsieur le président. Si j'ose ces quelques vers, peut-être impertinents, c'est qu'on marche de travers. Oubliez l'arrogance, au fond de votre planque, on ne dirige pas la France comme on dirige une banque. Monsieur le président, remarquez ceux qui plongent, ouvriers, artisans, tour à tour jettent l'éponge. Et les rires en pagaille, ils ne résonnent plus quand une usine se taille, quand un père s'est pendu. Monsieur le président, notre belle maison brûle, il est fini le temps des magouilles, des calculs. Admirez nos montagnes, l'océan, les oiseaux, il est temps que l'on soigne la terre de nos marmots. Monsieur le président, et sauf votre respect, vous offensez grandement votre poste au sommet. Faut être à la hauteur du berceau des lumières, des poètes, des auteurs, des femmes qui se libèrent. Monsieur le président, tout en haut de l'échelle, je vous l'accorde pourtant, la vue doit être belle. Mais descendez d'un cran et mesurez la peine de millions de braves gens que vos lois ne comprennent. Monsieur le président, passez-moi les menottes, faites-moi taire sur le champ, interrogez mes potes. Je ne fais que chanter la résistance, la vie, l'amour, la liberté que le monde nous envie. Monsieur le président, peut-être m'avez-vous lu, vous n'avez guère le temps, et d'ailleurs moi non plus. J'ai le cœur à combattre l'absurdité humaine, armée d'une feuille à quatre, alors à une prochaine.
Wow. Ce clin d'œil à Boris Vian ce matin par Gauvin Serse. Merci infiniment, Gauvin, d'être venu faire un tour dans cette émission. Merci aussi à Laurent Baudouin et Dinab Sangaré ce matin à la technique. Je rappelle, Gauvin, que vous êtes actuellement en tournée avec votre troisième album, Ta place dans ce monde, et que vous serez bientôt à Dunkerque, à Saint-Martin-Boulogne, à Firminy, à Château-Giron, à Concarneau, Château-Briand, Bruissuire, Pontparlier, Thiers, Saint-Maurice-l'Exil, Feurs et même Bruxelles. Et je vais dire bonjour à qui? À mon cher Thomas Chauvinot. Grand bien vous fasse et une grande belle année, parce que je vous ai pas vu, Thomas.
Eh ben non, ça va. Bisous, Augustin, c'est vrai, tous mes vœux. Enfin, bisous de loin, bisous. Quoi. Bisous masqués.
De quoi on parle?
On parle de l'hypnose pour les enfants. Très Est-ce bien. Que ça marche? Dans quelles conditions? Ça peut marcher pour vous aussi, si vous voulez. Quelles sont ses limites? En tout cas, on se pose toutes ces questions dans Grand bien vous fasse et on attend les vôtres de questions 01 45 24 7000 ou sur l'appli de France Inter.
Comptez sur nous.